m'a paru difficile à saisir analytiquement. Blanchi par les ans, semblable à une ombre à peine capable de revivre, comme s'il avait été soumis à un refoulement particulièrement inexorable. Mais peut-être n'ai-je cette impression que parce que les femmes qui étaient analysées par moi pouvaient conserver ce même lien au père dans lequel elles s'étaient réfugiées pour sortir de la phase pré-œdipienne en question. Il apparaît en vérité que des femmes analystes, comme Jeanne Lampel de Groot et Hélène Deutsch, ont pu percevoir plus aisément et plus clairement cet état de choses parce que leur venait en aide, chez leur malade, le transfert sur un substitut de mère approprié. Je ne suis pas non plus encore parvenue à percer un cas complètement à jour. Je me limiterai pour cette raison à communiquer les résultats les plus généraux et ne donnerai que peu d'exemples des nouvelles idées auxquelles je suis parvenue. En voici un. Je soupçonne qu'il y a une relation particulièrement étroite entre la phase du lien à la mère et l'étiologie de l'hystérie, ce qui n'a rien de surprenant si l'on considère que l'une et l'autre, la phase comme la névrose, appartiennent au caractère particulier de la féminité. Je soupçonne aussi, de plus, que l'on trouve dans cette dépendance vis-à-vis de la mère le germe de la paranoïa ultérieure de la femme. Ce germe semble bien, en effet, être l'angoisse d'être assassinée, dévorée, par la mère, angoisse surprenante mais que l'on trouve régulièrement. Nous sommes portés à affirmer que cette angoisse correspond à une hostilité envers la mère qui se développe chez l'enfant par suite de multiples restrictions de l'éducation et des soins corporels, et que le mécanisme de projection est favorisé par le fait que l'organisation psychique en est encore à son début. J'ai avancé les deux faits qui m'ont frappé par leur nouveauté, que la forte dépendance de la femme vis-à-vis de son père ne fait que recueillir la succession d'un lien à la mère aussi fort, et que cette phase plus ancienne persiste pendant une période d'une durée inattendue. Je veux maintenant revenir en arrière pour insérer ces résultats dans l'image du développement sexuel féminin que nous connaissons bien. Ce faisant, je ne devrais pas éviter de me répéter. La comparaison continuelle avec l'effet masculin ne peut que profiter à notre exposé. Il est tout d'abord évident que si l'on affirme une bisexualité de la constitution des êtres humains, cette bisexualité est bien plus accentuée chez la femme que chez l'homme. Un homme n'a en somme qu'une seule zone génitale prédominante, un organe sexuel, tandis que la femme en possède deux, le vagin qui est proprement féminin et le clitoris, analogue au membre viril. Nous pensons que nous avons raison d'admettre que le vagin n'est pour ainsi dire pas présent pendant de nombreuses années. Peut-être ne commence-t-il à produire des sensations qu'à la puberté. Sans doute, dans ces derniers temps, se multiplient les voix des observateurs qui font aussi remonter l'émotion vaginale à cette période du début. L'essentiel de ce qui, dans l'enfance, concerne la génitalité doit donc se dérouler en relation avec le clitoris. La vie sexuelle de la femme se divise régulièrement en deux phases, dont la première a un caractère masculin. Seule la seconde est spécifiquement féminine. Ainsi, dans le développement de la femme, il y a un procès de transport d'une phase à l'autre, et rien de tel chez l'homme. Une autre complication provient de ce que la fonction du clitoris viril se poursuit dans la vie sexuelle ultérieure de la femme de façon très variable, et qui n'est certes pas comprise comme satisfaisante. Nous ne savons naturellement pas quelle est la base biologique de cette particularité de la femme. Nous pouvons encore moins lui assigner un dessin téléologique. Parallèlement à cette première grande différence se développe l'autre qui concerne la découverte de l'objet. Chez l'homme, la mère est le premier objet d'amour, du fait que c'est elle qui donne la nourriture et prodigue les soins corporels. Et elle le reste jusqu'à ce qu'on lui substitue un autre objet qui lui ressemble par sa nature ou qui dérive d'elle. Pour la femme aussi, la mère doit nécessairement être le premier objet. Les conditions primordiales du choix d'objet sont naturellement les mêmes pour tous les enfants. Mais à la fin du développement, l'homme père doit être devenu le nouvel objet d'amour de la femme. Autrement dit, au changement de sexe de la femme, doit correspondre un changement de sexe de l'objet. De nouvelles tâches apparaissent ici pour la recherche. La question de savoir dans quelle voie a lieu cette transformation. Est-ce qu'elle s'accomplit radicalement ou de façon incomplète? Quelles sont les diverses possibilités qui résultent de ce développement? Nous avons déjà reconnu qu'une autre différence entre les sexes concerne la relation avec le complexe d'Œdipe. Nous avons l'impression que tout ce que nous avons dit du complexe d'Œdipe se rapporte strictement à l'enfant de sexe masculin et que nous avons le droit de refuser le nom de complexe d'Électre